Vous écoutez
RMC. RMC.
Jusqu'à 8h.
Coupez-le, bordel.
Votre maison.
Alors ça va vous coûter cher.
François Sorel.
Christian Pessé.
Il faut couper l'eau là, parce que ça commence vraiment.
C'est préférable.
À fuiter.
Ouais.
Christian Pessé, il est 7h30, direction la salle de bain pour justement évoquer le fait d'économiser l'eau, la chauffer, l'utiliser avec notre invité.
Oui, tout à fait. Nous sommes avec Hubert Maître. Bonjour.
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 Vous êtes secrétaire général de l'AFISB, c'est-à-dire l'association des industriels de la salle de bain.
Les fabricants.
Les fabricants, globalement. Vous avez un site super, c'est salledebain.fr, je le dis tout de suite parce que c'est vraiment
très bien.
C'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de choses,
notamment les conseils de pose qui constituent les règles de l'art et qui servent aux documents techniques unifiés des DTU.
Voilà les fameux DTU que je cite
salledebain.fr.
C'est tout bête.
Bah, voilà. Ça voilà. C'est bien. Au moins,
c'est salle de bain au singulier ou au pluriel, salle de bain?
Salle de bain, mais il y a un S à bain à l'ancienne.
Oui, mais c'est normal, c'est la grammaire. Je ne fais que là aussi me battre sur la disparition du S à salle de bain. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a parlé comme ça. Salle de douche, il n'y a pas d'S. En français, salle de bain, il y a un S.
Il y a un S, d'accord.
Salle de douche, bon, allez comprendre. Ce sont les mystères de la langue française. Alors bon, on ne va pas faire ce matin Maître Capello. Hein, on va donc parler de l'eau chaude dans la salle de bain. Ça m'a semblé très important de parler de cela parce que on parle beaucoup des équipements de la salle de bain, de la déco, tout ça, mais finalement on oublie un peu l'essentiel qui est quand même la question de l'eau chaude. Alors avec différents axes, l'économie, comment la chauffer, etc. Alors on va commencer par l'économie. Quels sont les moyens les plus simples, les plus basiques pour économiser l'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau, il y a le prix de l'eau, mais il y a aussi donc le prix que coûte son chauffage. C'est quoi les moyens les plus basiques pour économiser tout cela?
Il y a deux choses. Il y a le choix des produits et on va le voir. Il y a des possibilités de choix de consommateurs. Il y a les usages, évidemment. Hein. Si on parle de la douche, est-ce qu'on parle d'une douche fonctionnelle ou d'une douche confort? Dans une famille de 4 ou 5 personnes, celui qui paye prend plutôt des douches fonctionnelles et celui qui ne paye pas prend plutôt des douches de confort.
D'accord. Alors, il y avait des petits moyens, il y a toujours des petits moyens d'économiser, par exemple le mousseur qui avec de l'oxygène
qui rajoute de l'air en
qui
fait,
rajoute
dans
de
l'eau,
l'air, le stop douche qui s'arrête la douche automatiquement. Ça marche encore, ça ou
oui. Écoutez,
est-ce que c'est très efficace?
Je dirais que il faut un petit peu de bon sens. La première des choses, c'est de connaître le débit de sa douchette de tête.
Oui. Personne ne se connaît ça.
Si c'est une très grande douchette, très très large, une grande surface, vous avez de l'eau qui tombe à côté. Donc évidemment, le savon et le shampoing ne vont pas partir. Il va y avoir du gaspillage d'eau. Donc la première des choses pour économiser l'eau, c'est que le savon et le shampoing s'en aillent. Après, on peut arrêter. Si vous réduisez le débit, vous allez simplement prendre des douches plus longues.
D'accord. Donc ça revient au même finalement, on consommera autant d'eau.
Oui, si la surface, si le débit de la douchette est raisonnable. Voilà.
C'est quoi la durée d'une bonne douche?
Oui, c'est quoi ça? Quelques minutes.
Vous avez étudié ça ou pas? Auprès des utilisateurs.
Chacun a son expérience.
Oui, c'est vrai.
Mais la douche fonctionnelle, si vous vous levez à 5 heures tous les matins, peut-être que ça vous est arrivé ce matin.
Ça nous arrive de temps en temps, oui.
Eh bien, vous allez assez vite.
Paradoxalement, moi j'aime bien prendre mon temps parce que ça me réveille aussi.
Alors,
voilà, tout dépend.
Vous êtes plutôt dans la douche de confort.
Je suis plutôt dans la douche de confort, oui.
On avait vu apparaître il y a quelques temps des douches à recyclage d'eau.
Oula.
Ça existe encore, ça? Ça paraissait un petit peu fou, quoi.
Si vous voulez, des innovations et des inventions, il y en a beaucoup.
Oui,
après, il faut qu'elles aient leur vie économique et leur justification économique. Il y a des tas de choses que l'on peut faire collectivement dans des nouveaux ensembles d'immeubles et des choses au niveau d'un foyer. Là, c'est plus limité. Mais il y a quand même une palette de choses possibles.
Alors, on en vient justement. Vous êtes en train de nous dire que finalement, les économies d'eau sont relativement limitées. Si, la chasse d'eau, parce que c'est parallèle à la salle de bain. bains. Là, il y a quand même toutes les cuvettes à double détente, si j'ose dire.
Non, les économies d'eau, on peut les faire presque partout. Le fait de choisir une douche plutôt qu'un bain, c'est déjà une première économie. Aujourd'hui, il y a des produits hybrides qui sont bain-douche, et donc vous n'avez pas à choisir entre le bain et la douche. Pourquoi ? Parce que si on prend beaucoup plus de douches, en revanche, on veut toujours, et notamment nos compagnes, prendre un bain par semaine ou deux.
Alors, justement, c'est une bonne question, cher Hubert et cher Christian. La question de Crinette qui nous dit, je dois refaire ma salle de bain, mais j'hésite entre une douche à l'italienne et garder la baignoire. En cas de revente de mon appartement, est-ce qu'une baignoire est un plus pour des familles?
Oui, incontestablement. Dans la construction neuve, si on construit toujours autant, on vend toujours autant de baignoires. Ce qui a changé, c'est la fréquence d'utilisation de la baignoire en tant que bain. Et donc, on a des produits hybrides aujourd'hui qui vous permettent de ne pas avoir à choisir entre l'un ou l'autre.
L'idéal, c'est d'avoir une salle de bain assez grande pour avoir les deux, non ?
Oui, alors c'est surtout d'avoir deux
salles de bain. D'accord. Alors, oui. Une salle de bain avec baignoire.
Bon, alors c'est bien que ça suppose quand même d'avoir un peu de mètres carrés. À Paris, c'est un peu plus difficile. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, ou en tout cas, quand on fait construire, c'est quand même la solution.
Pour répondre à Crinette, donc, vaut mieux malgré tout avoir une baignoire si, dans la perspective de revendre notre bien.
Oui, c'est plébiscité en général.
D'accord.
D'abord, c'est indispensable pour les enfants, c'est vrai. Mmh. Mais même si la fréquence a baissé, on veut prendre des bains.
Ouais. Mais attention quand même, quand on est un peu âgé, lorsqu'on a une mobilité réduite, là, on va supprimer la baignoire pour passer à une douche souvent de grande dimension, c'est-à-dire qui correspond à la surface de la baignoire.
Tout à fait. En rénovation, c'est une tendance de fond. Et même dans les années difficiles qu'on vient de traverser, jusqu'en 2015, la douche a toujours été en croissance. D'accord. Du fait de la rénovation.
Chauffage de l'eau. Moi, j'ai l'impression qu'on a souvent eu de l'eau qui est beaucoup trop chaude. Non, c'est quoi la bonne température? Il y a une température légale, c'est 55 degrés maximum. Voilà. aux sorties du robinet ou de la douche.
Voilà, là, il y a une source d'économie importante d'eau et d'énergie primaire pour chauffer l'eau. Et là, on peut dire qu'en tant que consommateur, on est très mal informé. Savez-vous combien vous coûte la production d'eau chaude chaque année chez vous? Eh bien, on n'en sait rien.
Non, on n'en sait rien.
Je sais que c'est évalué à... En fait, c'est pas aussi important que ça. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de sur une famille de deux personnes, de 150-300 euros. Et voilà. Puis 450 sur une famille de quatre personnes.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais il y a une source d'économie importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise plus l'eau chaude que dans la salle de bain, pratiquement, très peu en évier.
Très peu en évier, évidemment.
Eh bien, produisons l'eau chaude. Là où on la consomme, on aura déjà un chemin d'eau chaude beaucoup plus court. Et puis, alors, il y a des solutions très intéressantes. Je voudrais mettre l'accent sur une start-up française, Twido, qui vous propose trois ballons cylindriques côte à côte. Et quand vous puisez de l'eau chaude, eh bien, le seul premier ballon dans lequel vous avez puisé se remet en chauffe.
Ah, et pas la totalité. D'accord.
Alors que tout un chacun, on a des ballons de 200 litres, 100 litres, vous lavez les mains, vous relancez le cycle de production d'eau chaude.
Oui, et puis, généralement, c'est à l'autre bout de la maison. Quoi.
Non, mais la plupart du temps, c'est la nuit que ça se réchauffe, non ? C'est pas en journée.
Ah bah ça dépend ce que vous avez consommé comme eau, ça dépend aussi.
Non mais si on a 200 litres, en se lavant les mains, ça va pas.
Oui, mais vous parlez là simplement du chauffe-eau électrique.
Oui.
Mais beaucoup ont un chauffage de l'eau avec leur chaudière
qui se met en route à chaque fois.
On va être comme ça.
Gilles sur Direct Studio, question intéressante. Il habite dans un immeuble avec chauffage et eau collectif. Construit en RT 2012. Le temps d'attente, nous dit-il, pour obtenir l'eau chaude dans ma salle de bain est de l'ordre de 45 secondes à 1 minute, ce qui entraîne des surconsommations logiques importantes d'eau et de l'inconfort. Est-ce qu'il existe une règle d'attente maximum dans le neuf ou dans le chauffage collectif ?
Non, à ma connaissance, non. Il n'y a pas de norme sur le sujet. Mais d'où cette...
Parce que 45 secondes, vous vous rendez compte le temps perdu et puis l'eau consommée pour rien.
Oui,
parce que finalement, on peut pas se doucher si l'eau est froide.
Je vais vous dire, chez moi, en habitat individuel, j'ai plus d'une minute. J'ai plus d'une minute, je l'ai compté. J'ai plus d'une minute. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que très souvent, lorsque la
réserve d'eau chaude est loin, c'est ça ?
Ben voilà, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est une chaudière qui fait également l'eau chaude sanitaire. Et il y a, 15 mètres de canalisation pour arriver à la salle de bain qui a été construite, qui a été certainement aménagée après. la construction de la maison, et donc on avait au départ une salle de bain qui était proche de la une salle de douche qui était proche de la production et qui se retrouve à l'autre bout de la maison par rapport.
Et là, il y a rien à faire.
Ah si, il y a justement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avoir un système comme celui que vient de décrire Hubert Maître, ou aussi on peut très bien ramener un petit chauffe-eau près de la salle de bain.
Oui, il existe des petits chauffe-eau.
Et il y a même des chauffe-eau instantanés. Alors là-dessus, le débat est un peu important parce que il faut, en revanche, là, il faut amener beaucoup d'énergie.
Oui, parce qu'il faut une résistance hyper puissante qui va chauffer l'eau quand elle passe dans le tuyau, c'est ça ?
Et alors ça va avoir pour conséquence d'obliger d'avoir des conducteurs de forte section, jusqu'à 6 mm carrés, et ça va imposer souvent d'avoir un abonnement plus cher.
Ah oui, parce qu'il faut énormément de puissance d'un coup, et l'abonnement qu'on a...
Voilà.
Ne suffit pas toujours, c'est ça.
Eh oui.
Mais c'est efficace ou pas? Ça marche bien?
Bah, écoutez, en Angleterre, ils n'ont que ça.
Oui.
En Angleterre, ils n'ont que ça.
Eh oui.
Nos amis anglais.
Oui. C'est très bizarre là, les installations anglaises. Vous savez qu'il y a beaucoup de maisons encore qui sont alimentées en eau par gravité, c'est-à-dire qu'ont une réserve d'eau.
Oui. On le voit d'ailleurs dans certaines séries ou dans de documentaires.
Voilà. Donc, c'est assez.
Ils ont des petits châteaux d'eau, quoi.
Ouais,
en fait,
oui,
c'est
tout ça. En termes de confort, et notamment en termes de robinetterie, d'équipement aussi, on a parlé de douche à l'italienne tout à l'heure. C'est quoi la tendance? Parce que la douche à l'italienne, même, je ne cesse de répéter que faut que ça soit vraiment très bien fait pour pas avoir de problème d'étanchéité. La tendance à la veille d'Idée au Bain, là, qui va se tenir à Villepinte dans quelques jours, c'est quoi?
Alors, quand on parle de douche à l'italienne, on pense toujours à du carrelage, mais les fabricants ont depuis, et notamment à cause de l'accessibilité et du ressaut inférieur ou égal à 2 cm pour rentrer dans sa douche, on a développé des receveurs ultra plats, et la tendance de fond, vous allez voir sur Idéo Bain, ce sont de très très grands receveurs, jusqu'à 1m80, et des solutions très rigides, voire pour certaines, légères à la fois.
D'accord.
Vos questions sur la salle de bain, sur l'eau chaude, c'est le moment ou jamais avec notre invité. On revient dans un instant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 8h moins le quart, le retour du week-end des experts, c'est la maison avec Christian Pessé, notre invité Hubert Maître, qui est secrétaire général de l'AFISB, l'Association des industriels de la salle de bain. Et on évoque évidemment cette pièce que l'on choisit, qu'on aime bien, hein, c'est vrai, une bonne douche. C'est important, hein, une belle salle de bain, bien confortable et bien moderne.
C'est devenu une pièce à vivre,
bien évidemment,
quasiment à part entière. Hein. On va parler quand même d'un élément complémentaire qui souvent est dans la salle de bain et puis parfois quand même qui en est séparé, les WC. Alors bon, c'est pas très sexy, mais c'est quand même très très utile.
C'est obligatoire.
Voilà. Alors quel conseil? Bah d'abord peut-être pour économiser l'eau avec les doubles fonctions, enfin les doubles commandes. Comment ça marche ça déjà?
Bien. Alors c'est un système simple, hein, de double chasse, petite chasse, grande chasse, pour des raisons évidentes. Ce qu'on peut dire, c'est que si on veut économiser l'eau, le parc français dans son ensemble n'est peut-être pas encore à 3 litres 6 litres, qui est la norme en France.
Donc 3 litres
petite chasse,
6 petit litres besoin de chasse.
Et 6 litres, voilà.
Alors moi, je vais vous donner une combine pour si on veut pas changer sa chasse d'eau et si le réservoir est suffisamment, la brique.
Oui,
la brique, c'est possible, non? C'est-à-dire, on met une brique, le volume de la brique prend sur le volume d'eau.
Oui, donc on mettra moins d'eau dans le réservoir.
C'est possible.
Vous avez évoqué la photo, je vais vous parler du film. La cuvette est dessinée, hein, on parle de cuvette des années 70, pour absorber 9 litres, voire plus, 12 litres. Et donc, vous avez un grand bol, vous avez un siphon qui est adapté. Ouais. Si vous mettez moins d'eau dans ce bol-là...
Il y aura moins de puissance.
Vous allez avoir moins bonne évacuation. Il y a des chances que vous tirez la chasse deux fois.
D'accord.
Et donc, c'est pire. C'est pire.
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les... Bon, bah, d'accord. Donc, il faut que je remette...
Enlever la brique.
Mais ça ne coûte pas très cher à remplacer un mécanisme.
Mais si on admet que les économies d'eau... sont importantes collectivement pour un pays. On ne parle que de l'énergie, il faut parler de l'eau. On vient de vivre une sécheresse pendant plusieurs mois.
Oui.
On voit bien dans certaines régions à quel point c'est crucial. Donc, il est temps déjà de mettre le parc à jour. On le fait pour les chaudières, on le fait pour tout, et pas pour l'eau.
Dernière question.
Oui. Question. Dernière question. Oui. Les WC lavant, si j'ose dire, c'est-à-dire les WC qu'on dit japonais. Alors
ah
que,
oui, avec les petits jets d'eau.
Oui, ça prend en France. Remplace le bidet progressivement.
C'est des croissances à deux chiffres. Le bidet, on l'a un peu oublié. Donc, on redécouvre le plaisir de l'hygiène, d'utiliser moins de papier et partant, sans doute moins d'eau aussi dans les réseaux. Voilà.
Tout ça, c'est très culturel. Hein. On sait que les Japonais adorent ça.
Invention suisse européenne. Mmh. Les Japonais ont adopté jusqu'à équiper 70% de leur parc. Ouais. Après, chaque pays le voit, mais partout en Europe, c'est une croissance à deux chiffres, parce qu'une fois qu'on l'a essayé, on l'adopte. Il y a une offre qui s'élargit aujourd'hui, avec des produits plus abordables.
Oui, parce que ça coûte une fortune quand même.
Mais non.
Non, ça coûte combien?
Ça commence à 1 600 €. On a dans des réseaux...
Pas mal, 1 600 €.
Oui, mais c'est un service au quotidien pour toute une famille.
C'est pas donné, quoi. 1 600 €, c'est une somme, quand même.
Non, c'est vrai. Mais c'est un vrai service.
Après, il y a aussi l'association de la petite douchette à côté des WC.
Alors ça, c'est les installations un petit peu comme au Moyen-Orient, plus traditionnelles, les pays du Sud.
Qui sont peut-être moins onéreuses aussi.
Oui, mais il y a aussi...
C'est moins confort.
Il y a aussi des cuvettes lavantes où il y a simplement un robinet thermostatique à l'intérieur sans connexion électrique. Et là, on est autour de 1 000 € hors taxe.
Bon, vous me la faites à 1 000 €. Très bien.
Parfait. Ouais, mais si c'est pas réchauffé, ça fait froid, hein, le petit jet d'eau. Non, moi qui suis frileux,
Le thermostatique permet d'avoir de l'eau chaude.
Voilà, très bien. Je suis rassuré.
Évidemment, si vous attendez 45 secondes l'arrivée de l'eau chaude,
là pendant 45 secondes, on a un petit souci.
On a un peu tétanisé. L'eau froide est bonne.
Alors pour les pros, Idéobain dans quelques jours, ça commence quand, Idéobain?
Du 4 au 8 novembre, le grand rendez-vous du bâtiment et de la salle de bain.
Jérôme, merci beaucoup.
Merci.
Jérôme est avec nous au 32-16. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bienvenue Jérôme, on vous écoute.
Alors, j'ai un projet de mise en place d'une piscine avec une coque au printemps prochain. Quand je consulte différents professionnels pour me faire les plages, tous me disent qu'il faut faire une ceinture en béton autour de la piscine et pour cet pisciniste à me la mettre en place. Quand je le demande au pisciniste, lui me dit « ce n'est pas moi qui vais vous faire la ceinture, c'est effectivement aux gens qui vont mettre la plage en place, à vous la faire.
Eh » ben, changer...
Chacun se renvoie la balle.
Voilà. Changer de pisciniste, parce que le pisciniste qui fait pas tout, moi je comprends pas très bien. Hein, le pisciniste, normalement, il vous met la coque, il fait le ceinturage, il vous fait la plage.
Il vous livre la piscine,
en
fait.
En plus, à qui vous adresserez en cas de problème et de jeu de la décennale?
D'accord. Voilà, c'est ça mon problème. Je renvoie la balle et j'ai bien compris.
Non, il vous faut un interlocuteur unique qui prend la responsabilité de la décennale. Il vous faut une dommage ouvrage, une assurance dommage ouvrage. Il n'y a pas que pour la maison. La piscine est soumise aux contraintes de la garantie décennale. Trouvez un bon pisciniste qui vous fait les deux. Il n'y a aucune raison que vous en ayez un. Alors qu'est-ce qu'il vous ferait le second? Il vous me donnerait simplement la pompe, les équipements. Le chauffage de l'eau, non, ça va pas.
D'ailleurs, le pisciniste me ferait juste, effectivement, mettrait la coque et après tout ce qui est équipement. Et après, voilà, c'est un autre intervenant qui me ferait les plages.
Essayez d'obtenir quelqu'un qui vous groupe les deux, parce que sinon, vous serez empoisonné lorsque vous aurez un problème de décennale ensuite. Il faut absolument être sérieux.
Oui. Piscine, ça aussi, c'est un. Piscine. On fait pas ça à la légère. Faut bien choisir l'entrepreneur, etc. Ah, c'est très compliqué la piscine.
Oui, c'est compliqué parce que vous voyez, par exemple là, on parle d'un problème de coque polyester. C'est une des solutions les plus simples pour faire ça. Mais aujourd'hui, avec les problèmes climatiques d'un seul coup, on a d'un seul coup des pluies, notamment dans le midi, qui sont extrêmement importantes. On peut avoir des remontées de nappes phréatiques.
Qui font soulever la coque.
Si c'est pas bien fait, si votre piscine, par exemple, en hivernage, elle n'est pas remplie complètement, vous pouvez très bien avoir la piscine qui. Ploup, comme un bouchon de champagne.
C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit pleine, pour que justement elle soit lestée.
Il faut toujours laisser la piscine pleine ou quasi pleine.
Merci beaucoup Jérôme. Christian, on va terminer par votre coup de gueule, et c'est un sacré coup de gueule.
Oui, c'est un sacré coup de gueule parce que l'Agence Nationale de l'Habitat, autrement dit l'ANA, a annoncé cette semaine, eh bien brutalement, l'abaissement du plafond des dépenses qui pouvaient être subventionnables au titre du programme Habiter Mieux Agilité, pour lequel l'Agence Nationale de l'Habitat a fait beaucoup de publicité. Alors c'est un programme, vous savez, qui bénéficie surtout aux ménages modestes pour la rénovation énergétique de leur logement et principalement le remplacement des vieilles chaudières fuel. Alors on nous a fait beaucoup de battage sur la chaudière à 1 euro, et bien pratiquement, le remplacement de la chaudière à 1 euro, pratiquement, du coup, bah, c'est terminé, quoi. On peut considérer que jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura plus du tout de subventionnement. Alors j'ai largement dénoncé ces dernières semaines les arnaques qui pouvaient exister, et c'est au prétexte des arnaques que l'ANA annonce cette réduction.
Quel type d'arnaque, Christian, pour nous rafraîchir la mémoire?
Les arnaques, c'est des travaux un peu bâclés, c'est un surcoût en profitant de l'effet d'aubaine.
Non justifié.
Donc, et l'ANA dit, attention, moi je suis en train de subventionner les marges d'un certain nombre d'entreprises, donc j'arrête de subventionner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé dans certains cas de 20 000 euros d'aide potentielle à 8 000 euros d'aide potentielle. Vous vous rendez compte, c'est plus de la moitié, qui, y compris sur des dossiers en cours. Alors, pour justifier cette mesure, eh bien, la directrice de l'ANA a déclaré avoir constaté une inflation extrême et importante des prix des matériels en raison du cumul des aides publiques. Bon, c'est à voir. Les victimes, ça va être qui? Ça va être les ménages les plus défavorisés, encore une fois, mais aussi les industriels et les entreprises convenables, parce que globalement, elles sont honnêtes, qui avaient été engagées par le gouvernement à faire des efforts, justement, dans ce domaine. On leur coupe les pattes, quoi. Je veux dire, tout simplement, à quelques mois l'arrivée d'un système de subvention directe par prime, et qui va être chargé de ces primes, précisément l'ANA. Alors ça permet, il y a quand même des doutes là. On se demande comment l'ANA va être capable, alors qu'elle n'est pas capable justement de finir un programme qu'elle a elle-même initié, comment l'ANA va être capable là d'avoir la totalité du système de subventionnement de la rénovation énergétique à sa charge. Voilà, et je trouve que c'est pas bien.
Christian, merci pour ce coup de gueule très clair. Nous retrouverons bien sûr la semaine prochaine.
Oui, bien sûr.
On sera d'habitude. Là, entre 7h et 8h pour la maison.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.